Hello, it's Lang Lang. You are listening to Pop Pop Pop.
It's a really amazing, great show. I never seen such a beautiful mix of audio today. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Depuis ce matin, vous entendez résonner sur nos ondes les trompettes du triomphe, semblables à celles qui accueillaient César à Rome au retour de ses campagnes victorieuses. Et oui, sans vouloir en rajouter une couche, c'est vrai que c'est plutôt agréable de se dire qu'on caracole en tête sur l'hippodrome radiophonique. Grâce en soit rendue à toutes les petites mains qui s'activent en coulisses pour que les grosses têtes de l'antenne puissent gober à pleine bouche, en leur nom à tous, les fruits de la victoire. Et quand je dis grosses têtes, n'y voyez aucune malice, bien sûr, d'abord parce que même si elles perdent du terrain, les vraies grosses têtes continuent à régner sur les après-midi. Mais enfin bon, au moins le menu global proposé sur l'éventail des stations est suffisamment copieux pour que chacun trouve chaussure à son pied. Enfilons donc avec plaisir les pompes en daim bleu de Pop 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 et poussés par les alizés de la reconnaissance, allons nous promener dans les bois de la curiosité et il va vraiment falloir que je songe à cesser de filer la métaphore à deux balles, moi-même ça m'épuise. Cinéma et BD sont au programme aujourd'hui et nous allons passer l'heure qui vient en compagnie de deux artistes avec qui il faudra désormais compter fois de Pop Pop Pop. Allez, c'est parti, et puisque je parle de futur, je dirais même back to the future.
Pop Pop Pop, Antoine de Caunes.
Bonjour Stéphane Bach.
Bonjour.
Oh, mais qu'est-ce
bonjour
que c'est
patronne, comment bon, ça bonjour va mais... Bravo.
Merci Laurent.
Bravo. Mais... Alors on en laisse son petit casque.
Je suis en plein direct.
Oui, mais on s'en fiche. Et là, aujourd'hui, ce sont les audiences, mon cher Antoine. Ça vous va tellement
vous
bien.
Expliquer ce qui se passe.
Mais vous êtes tellement...
Alors Laurence Bloch, notre patronne bien aimée, est en train de bomber les cheveux d'Antoine
le
en rouge.
Ça
non, c'est rouge, ça fait des...
Aujourd'hui, on est première.
Montrez-moi c'est quoi.
Je vous le laisse.
Ça vous va bien ces petits points rouges?
C'est pas les pompes en daim bleu, c'est la bombe en rouge.
Ah, mais c'est votre couleur.
Merci. C'est la vôtre.
Allez, merci bravo, Laurence. Antoine. Oula, ça colle. Bonjour. Merci infiniment. Merci. Bon, je remets mon casque. Ah là, ça colle bien là maintenant. Bien, bonjour Stéphane.
Bonjour,
Bach.
J'aurais adoré avoir une patronne pareille.
Bah oui.
C'est excellent.
Je vous la prête si vous voulez.
Ah, non,
je
la prête bien. Pas. On
ah,
la
d'accord.
Stéphane Bach, comment voyez-vous votre futur d'ailleurs?
Wow, c'est une sacrée question ça. Mmh. Je ne fais pas de prédictions. On se le souhaitera Dieu. On verra comment ça se passe. Mais non, j'en ai aucune idée là. Vraiment, c'est le flou total.
Bien à mes côtés, celle qui vient d'arriver dans le studio en overboard, Charline Roux. Alors que je suis rouge donc maintenant. Mmh. La route était bonne.
Excellente Antoine. Bonjour, bonjour Stéphane.
Bonjour
Roux, route. Eh oui, on est comme ça ici. Alors au menu également de Pop Pop Pop, un autre millénial, le bédéiste Timothée Leboucher qui sera avec nous tout à l'heure. Mais avant ça, Stéphane Bach, ici, il existe une question. Une question qui peut faire encore plus mal à la pop culture que Grégoire. 'Cause you say that you've never been and all the things that you see. Okay, merci, ça va là. Je sais que vous aimez la musique. Et cette question, Stéphane Bach, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture, Stéphane?
Alors, pour être totalement honnête, hein, j'ai eu des réponses stéphanisantes, bacchisanantes, standupidesques ou même septiémarisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de votre ami Timothée Chalamet. Oui, c'est chic de dire votre ami Timothée Chalamet. Écoutez-le.
En fait, c'est plus égalitarien, c'est plus organique que le pop culture se trouve moins maintenant, je sais pas, dans un pub, mais plutôt sur, je veux pas dire les réseaux sociaux parce que ça feels très cliché, mais dans l'expérience humaine, je sais pas.
Ok, vous avez compris quelque chose?
That feels très cliché, c'est génial. On n'a pas l'habitude de se parler en français parce qu'on avait décidé que pour que je progresse en anglais, on se parlerait qu'en anglais.
Ah, oui.
Et donc du coup, je suis un peu impressionné d'entendre ça, mais je n'ai rien compris.
Donnez-moi votre définition de la pop culture en anglais alors.
Wow. The pop culture.
La
pop culture, je vais vous répondre en français. La pop culture.
I'm gonna tell you in French.
La pop culture, c'est vous, monsieur De Caunes.
Oh.
Non, sans déconner.
Mais si,
moi, j'ai grandi avec vous, je continue de grandir avec vous, et vous êtes toujours là, vous êtes toujours au fait, vous êtes sur France Inter, vous êtes première radio de France aujourd'hui. C'est vous la pop culture.
Stéphane, je vous aime beaucoup. Nous allons passer
vous en avez élevé des générations, patron.
Comment dites ça avec ce ton?
Bah non, je dis gentiment.
Non, non, alors ça, je sens un peu forcé.
Vraiment, vraiment, sans failloterie, sans aucune failloterie.
Non, non, mais continuez.
Mes premiers fous rires, sans déconner, c'est de Coné Garcia. C'est mes premiers fous rires.
Surtout Garcia, non?
Surtout Garcia, on va se l'avouer.
Ça permet de dater au carbone 14, là, ce genre d'information. Bon, mais ça m'a pas donné votre définition. Ah si, c'est moi, c'est vrai.
Vous êtes la pop culture, vous êtes l'incarnation de la pop culture pour moi. Très honnêtement.
Je prends, merci, avec mes cheveux rouges. Stéphane Pack, la pop, la culture et la pop culture. On va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, Juice, c'est un morceau de la rappeuse américaine Lizzo. Juice, cet extrait de l'album « Cause I Love You » qui veut dire « parce que je t'aime », non ?
Oui, probablement.
Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et voilà, je me suis mis tout le produit pourri dans la bouche.
Ah oui, vos dents sont rouges, c'est intéressant.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Spider-Man.
Je m'appelle Miles Morales. Dans mon monde, je suis le seul et unique Spider-Man.
Et bien sûr, il a sa place dans une émission de pop culture, même s'il reste collé au plafond. Va-t-il descendre ? Réponse à la fin de son pop portrait. Alors oui, votre pop portrait, Stéphane. Bah oui, c'est votre portrait, génial. Mais...
À base de pop.
Et il est signé Charline.
Aujourd'hui, un invité qui ne doit que très moyennement être préoccupé par l'âge du départ à la retraite, puisqu'il a beau n'avoir que 22 ans, ça fait déjà 8 ans qu'il cotise. Un invité placé sous le signe de la précocité. Carrière d'humoriste de stand-up débutée à 14 ans, ce qui est quand même remarquable, parce que moi, les ados normaux ont plutôt tendance à m'effrayer que de me faire rire. Et hop, une étape gratuite. Parce qu'en fait, c'est pas vrai, j'aime bien ses grands-enfants, enfin platoniquement, et de très très loin. À 15 ans, il est dans Bref et Le Grand Journal, à 16 au ciné dans Les Gamins et les Profs, à 16 ans toujours, il est à 2 degrés de séparation de Beyoncé, ce qui est toujours quand même assez chic, moi je trouve. À 20 ans, il tourne pour Verhoeven et Baratier avant de devenir Miles Morales / Spider-Man en dessin animé. Il revient aujourd'hui chez Joël Carrechesi et André Téchiné. Pardon monsieur, excusez-nous. Et j'ai du coup une question pratique. Est-ce qu'on double cotise quand on est Spider-Man, vous savez, à cause de la double identité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut majorer du
c'est
coup
une
sur
très,
le...
très bonne question.
C'est important pour les points.
C'est une très très bonne question. Je vais faire appel à mon agent, je sais qu'il m'écoute et j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien que le service de la comptabilité d'Adéquate me réponde et me fasse parvenir un fax à France Inter. Merci beaucoup.
Mmh, oui, parce que les boîtes de retraite pour les super-héros, ça va, je crois que c'est...
C'est pas mal.
Oui, non, les prélèvements sont assez raisonnables. Okay. Stéphane Bach, vous étiez aussi l'acteur principal de ce clip. The Girl Is Mine de 99 Souls en featuring les Destiny's Child. Vous pensiez un jour être le clip d'un morceau des Destiny's Child?
Absolument pas. Absolument pas. C'est une histoire un peu... J'ai deux amis, Ludovic Julie et Simon Buisson, qui m'ont contacté pour faire ce clip qu'on a tourné dans le 15e, comme ça, sur deux jours, avec aucune... Voilà, j'avais entendu le remix de ce groupe de Didier Anglais et il m'avait raconté que Brandy et Beyoncé avaient donné leur accord pour ce remix, et le clip et la chanson ont cartonné. Je crois que c'était le troisième titre le plus vendu aux UK, etc. Enfin, c'était hyper improbable, et on s'est retrouvé au MTV Awards avec tous ces gens. Enfin, c'est vraiment improbable, alors qu'on était dans le 15e en train de marcher en arrière pendant deux jours dans le froid. Donc, comme quoi, ça donne toutes sortes d'aventures.
Elle est sympa, Queen Bee, ou pas?
Alors, je n'ai pas encore rencontré Queen Bee, je me le souhaite un jour, mais je pense que je n'en reviendrai pas.
Bon, eh bien, vous tous qui marchez à reculons, hein, dans le 15e arrondissement de Paris, continuez. Voyez où ça mène. Vous êtes pop, Stéphane Bach, la preuve avec votre pop liste. Hop. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une série et une musique. Pour le livre culte, Stéphane, vous avez choisi Un autre pays de James Baldwin, publié en France en 1964. Charline, ne s'agirait-il pas par hasard de ce James Baldwin dont nous parlions il y a peu à l'occasion de l'adaptation au cinéma de La 7e Compagnie au clair de lune?
Ou bien de Sybil Street pouvait parler.
Ah oui, c'est ça. Pardon, pour moi.
Un autre pays s'attache à l'histoire de Rufus Scott, humilié, abandonné de tous dans un monde de blanc et qui, par une nuit froide de novembre, est allé s'engloutir à jamais dans l'eau glacée d'un fleuve.
C'est totalement ça. Je trouve que c'est un livre magnifique de James Baldwin. Je trouve que c'est vraiment un de ses livres fondateurs parce que voilà, il y traduit tellement de choses. Voilà, ça parle de l'ostracisation des Noirs pendant cette période de la ségrégation. Pardon. Ça parle de ses orientations égodystoniques. Ça parle vraiment de tellement de choses et je trouve que Baldwin, il a un talent, c'est qu'il écrit comme il parle. Et donc du coup, on est bercé constamment quand on lit ses livres, et moi je trouve que c'est vraiment un livre fondateur, et le titre je le trouve magnifique parce qu'en gros il dit qu'il aurait rêvé d'un autre pays où la différence, la race importe peu, et je trouve ça très beau.
Vous pourriez préciser ce que ça veut dire égodystonique
pour égodystonique, Fontana, quand même Antoine, c'est ses orientations sexuelles qu'on ne s'avoue pas, notamment on va dire chez la communauté noire à cette période-là de l'époque. Voilà, c'est égodystonique. C'est pourquoi c'était beaucoup trop...
Non, mais je disais ça pour...
C'était pas assez pop.
Parce qu'à chaque fois, à la fin de l'émission, il vient me voir en me disant ça voulait dire quoi. À la Critée, par exemple.
Oui. Bah, d'accord.
Oui, non, mais des mots un peu compliqués. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en lire un petit extrait?
Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est parti. Je sais que je l'ai laissé tomber, mais je l'aimais. Et personne ne voulait le savoir. Je ne cessais de me dire, ils sont noirs et je suis blanc, mais j'ai subi les mêmes souffrances, absolument les mêmes. Comment pourrais-je leur faire comprendre? Mais si, vous avez subi le même sort, dit-elle, mais ce n'est pas uniquement parce que vous étiez blanc. Ça s'est produit comme ça, un point c'est tout. Mais ce qui leur arrive à Harlem, le taxi sortit du parc, elle allongea la main, invitant Vivaldo à regarder leur arrivée, parce qu'ils sont noirs, et c'est là qu'est la différence.
Bien, merci Stéphane. C'est un extrait d'un autre pays de James Baldwin.
James Baldwin, un auteur qu'il faut lire absolument. Et alors, j'ai vraiment pas de... J'avais suivi cette affaire, mais un peu de loin. Je sais qu'il y a sa maison dans le sud, près de Nice, je crois, qui était censée être amenée à être détruite. Et je ne sais pas où, si l'État a statué dessus, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse préserver la maison de James Baldwin, un des plus grands auteurs de la littérature afro-américaine. Et cette maison, elle a vu passer Nina Simone et d'autres grands artistes. Je pense que voilà, c'est un truc qu'il faut garder. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant, Antoine, si vous entendez quoi que ce soit.
L'appel est lancé, on va essayer de raccorder ça ou appeler Stéphane Bern peut-être. Alors pour le film, bah Stéphane, justement, vous choisissez Boogie Nights ou Nuit endiablée hein, dans sa version québécoise. Oh, c'est un film réalisé
j'aime bien.
Par Paul Thomas Anderson en 97.
Ne le lancez pas.
Charline, saviez-vous que j'ai travaillé comme...
Vous pouvez me refaire
comme...
ça, le Nuit endiablée?
Bah, ah oui, ça c'est... Alors attendez.
Toute une phrase en québécois.
Ah non, ça je peux pas.
D'accord.
Alors, je peux faire deux mots. La Nuit endiablée. Non,
ça sonne texan, ça sonne texan.
Bon, d'accord. Charline, Boogie Nights, saviez-vous que j'ai travaillé comme consultant pour ce film de Paul Thomas Anderson? Oui, il avait besoin de vécu pour étoffer le rôle de ce héros au sexe surdimensionné.
Ah oui, et bah du coup, vous avez fait du consulting sur quoi?
Oui, bon d'accord. Okay. Allez, enchaînez.
Le héros en question, c'est Eddie Adams, Mark Wahlberg, dans son meilleur rôle, on peut le dire, qui devient une star du X sous le nom de Dick Diggler, après avoir été pygmalionné par Jack Horner, joué par Burt Reynolds.
In 1977, a kid from nowhere
made me think about your name.
Something a little pizzazz.
Dirk Diggler.
Had a dream of getting somewhere.
Jack Horner has found something special in newcomer Dirk Diggler.
Pleasure was a business.
Cut. Terrific. Nice work.
And business was booming.
The award for best newcomer goes to
Mr. Dirk Diggler.
Wow.
Stéphane Bach, pourquoi ces nuits en diable?
Parce qu'on a envie de les vivre, ces nuits endiablées, cette époque, voilà, où il y avait, on se posait beaucoup moins de questions sur le sexe.
Attendez, on a envie de les vivre. Il paraît que vous avez une vie de vieux.
Oui, j'ai une vie de vieux. J'ai clairement une vie de vieux. Qui vous a dit ça?
Timothée Chalamet.
Non, j'ai vraiment une vie de vieux. C'est vraiment
vers même. Enfin bon.
Non, mais Boogie Nights, je trouve que voilà, c'est moi, Paul Thomas Anderson, c'est mon réalisateur de rêve. Je trouve qu'il a Il y a une vision incroyable et on me traite de détraqué parce que j'aime ce film, c'est l'un de mes films préférés. J'ai un ami à moi qui ne regarde pas tellement de films, sur qui j'ai voilà, je lui ai recommandé Boogie Nights, et il m'a dit que j'étais un détraqué d'avoir ça comme film préféré. Mais je trouve que voilà, c'est excellent, on y découvre tous ces acteurs, Philip Seymour Hoffman qui est excellent dedans, on a toute cette fraise de personnages, il y a Julianne Moore, Don Cheadle, enfin c'est génial.
Un conseil. Changer d'amis. Stéphane Bach, votre série TV culte, c'est The Office. C'est une série créée par Ricky Gervais et Stéphane Merchant hein, entre 2005 et 2013. Charline, voilà qui vous fait un point commun avec Stéphane, en plus du prénom. Hein. Oui, ouais. Parce qu'en fait, Stéphane, c'est le deuxième prénom de Charline.
Voilà, absolument. Oui. En hommage à Guy, mon père. The Office, version Yankee, c'est le quotidien d'un groupe d'employés de bureau dans une fabrique de papier en Pennsylvanie menée par un patron un petit peu limité, Michael Scott, le génial Steve Carell.
If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there?
I would want to live with no legs.
How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything.
Vous êtes Steve Carellisé, vous aussi?
Je suis totalement Steve Carellisé. Je trouve que c'est un acteur phénoménal. Il l'a toujours prouvé, mais vraiment là, depuis son passage voilà, dans cette terre dramatique de sa carrière, je trouve que c'est un mec phénoménal. Et The Office, ce qu'il y fait en termes de rythme de jeu, de comédie, c'est juste phénoménal. Et vraiment, il y a tous ces personnages-là. C'est très, très impressionnant. J'adorerais un jour faire partie d'une équipe comme ça, quoi.
Bien. Stéphane Bach, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Everybody want world peace, till your niece get shot in the dome piece. Then you're going by your own peace, hoping it'll help you find your own peace. Bring light to what they don't see, auntie crying on the concrete. Talking to dispatcher, then the phone beep. On the other line with the homies, told her that you ain't coming home, see. When she heard the news, I heard a bone deep. Caught with the rifle with the long reach. Just another cycle of the lonely. All growing up in the environment. We're doing crime, no requirement. They send us off to prison for retirement. Hopefully Alice Johnson will inspire me.
Reborn, Kid Cudi et Kanye West, cet extrait de l'album Kids See Ghosts, c'est sorti en 2018 avec une pochette signée Takashi Murakami.
Alors je vais pas vous faire passer pour un profane Antoine, absolument pas, loin de moi cette idée là, mais c'est pas exactement la bonne chanson, mais c'est une chanson que j'adore aussi, donc ça va être cette chanson, celle-là s'appelle Cudi Montage, et c'est une chanson de Kid Cudi et de Kanye West sur cet album là, sur un sample de Kurt Cobain qu'ils ont mis des années à clear, comme ils disent aux États-Unis avec les droits, voilà, et je trouve ça, c'est pour moi Kanye West est le plus grand artiste du 21e siècle, voilà, c'est dit. Je pense qu'on peut dire ici.
Ben voilà, ça y est, ça se fait. Je veux pas me défausser, mais vous savez, le choix des morceaux revient à Ghislain Fontanus, notre réalisateur.
Mais Ghislain, on en parlera après.
À comprendre les mots de plus de deux syllabes. Alors je résume. James Baldwin, Boogie Nights, Kid Cudi et Kanye West, The Office. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
In 1977, everybody want world peace. Pleasure was a business.
Oh, shine your light on me, save me, please.
I would want to live with no legs.
Oh, shine your light on me, save me, please.
No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything.
Cut. Terrific. Nice work.
Je sais que je l'ai laissé tomber, mais je l'aimais. Et personne ne voulait le savoir. Je ne cessais de me dire, ils sont noirs et je suis blanc, mais j'ai subi les mêmes souffrances, absolument les mêmes.
C'est Stéphane Bach, ce shooter de pop culture?
J'ai l'impression, oui. Non mais c'est impressionnant la rapidité en régie de c'est Ghislain encore ?
Ghislain Fontanus.
Sacré Ghislain, il est impressionnant.
Ouais, il est très rapide avec ses mains. Stéphane Bach, on va passer de Kid Cudi à Frank Ocean avec ce
génial,
morceau.
Génial, quel morceau ?
Lost.
Génial.
Bon.
Double D, big four breast on my baby. Triple A, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost, lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on your girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties for sure. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost, lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. She's at the stove, can't believe I got her out here cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong,
nothing wrong,
nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the skies. You and I are lost, lost in the heat of it all. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
Dans Pop Pop Pop, Stéphane Bach, vous écoutez ça dans votre polo? Enfin, je parle de votre sweater, pas la
mais,
voiture.
Mais vous savez que j'ai une polo, pour de vrai?
C'est vrai?
J'ai une polo Volkswagen All-Star de 2015.
Incroyable.
Que je souhaite revendre, donc voilà.
Ah bah, allez-y, c'est le moment.
C'est polo en très bon état, 30 000 km/h, voilà.
C'est 30 000 km/h, c'est très rapide.
Oui, c'est très, très, très...
Elle est...
Elle est 30 000 km au compteur, peut-être. Du coup, j'ai pas le permis, mais je veux pas m'en mêler.
Elle est cotée combien?
Elle était cotée à la vente, elle était cotée 16 000 euros. Aujourd'hui, on peut s'arranger, vous passez, vous m'envoyez un DM, comme on dit sur Instagram.
Non, on va vous appeler directement chez vous, le numéro qui est le 01, le numéro d'Inter, 01 56 40 64 40.
C'est génial, 04, j'ai 04, 04, vendu une polo, c'est génial, 04, grâce à France Inter. C'est beau le service public.
Polo de... ça sert à ça aussi. C'est un polo de... Stéphane Bach, avant, j'ai été reçu au bac avec mention, aujourd'hui c'est moi qui le reçois. Stéphane Bach, vous êtes à l'affiche de La Miséricorde de la Jungle de Joël Carrecchesi, dont nous allons parler dans un instant. Vous serez également aux côtés de Catherine Deneuve dans L'Adieu à la nuit, et cet été aux côtés de Fionn Whitehead.
Fionn Whitehead.
Okay. Fionn Whitehead, le pauvre. Acteurs, le pauvre, Fionn.
Un des acteurs de Black Mirror pour le film Roads de Sébastien Schipper. Ça va? Tout va bien? Tranquillou, là?
Mais écoutez, moi je suis béni, je suis très très content, je suis très heureux, j'ai 22 ans, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, donc je peux pas...
T'as une voiture qui va à 30 000 km/h.
J'ai une voiture qui a 30 000 km/h.
Montrez vos poignets.
Zéro.
Vous n'avez pas de Rolex,
rien. J'ai raté ma vie. Ouais. Merde.
Enfin, vous avez encore un peu de temps, mais...
J'ai 25 ans devant moi.
Ouais, 27, 28. Alors vous déclariez en 2017... Je crois que c'était au cahier du cinéma, hein, que vous considériez le cinéma comme un moyen pour pécho plus facilement.
J'ai dit ça, moi.
Oui, vous avez dit ça, oui. Qu'en est-il en 2019?
Eh bien, écoutez, je réitère. Mais vraiment, je ne me souviens pas avoir dit ça. Je ne me souviens pas avoir donné d'interview au cahier du cinéma. Si c'est Ghislain qui est derrière tout ça, on va vraiment se parler. Mais écoutez, je n'utilise pas le cinéma comme un moyen de pécho. Moi, je vous ai dit, j'ai une vie de vieux, je suis à la maison, je lis des livres, ma petite verveine, je regarde Les 12 coups de midi, et puis voilà, quoi.
Mmh. Enfin, vous tournez aussi avec Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Est-ce qu'on y voit un rapport de cause à effet?
Je les sors de leurs EHPAD et je les amène sur le tournage.
C'est pour la drague, moi, mais pas pour le côté vieux, mais allez-y, ça n'engage que vous.
Je m'excuse vraiment, je suis vraiment désolé si Catherine a le malheur de m'écouter, je m'en excuse.
Mais oui, bien sûr, vous avez excusé. Mon petit doigt m'a aussi dit, j'aurais tout donné pour être dans Moonlight, dans Spotlight ou dans Creed, comme tous les Renois, dites-vous.
Mais je dis vraiment, c'est incroyable, je devais être...
Ah mais je peux vous comprendre.
Je ne prends aucune substance, mais je devais être sur quelque chose.
Parce que
je
ne comprends pas.
Abutisane.
Qui n'aurait pas rêvé d'être dans Moonlight?
Non, j'aurais adoré j'aurais adoré être dans. Je trouve Barry Jenkins fabuleux comme réalisateur, donc j'adorais bosser avec lui. J'adorais avoir les muscles de Michael B. Jordan.
Stéphane, ça veut dire, la question que je vous pose, ça veut dire qu'en France, on vous propose plus des rôles de cancre, de dealer?
Si on est honnête, oui. Des fois, le cinéma français manque clairement d'imagination. Oui.
C'est-à-dire que quand on est un acteur noir en France, il faut s'identifier à Lucien Jean-Baptiste ou à Omar Sy?
C'est des modèles tout à fait respectables. Moi, j'aime beaucoup Omar, j'aime beaucoup Lucien. Il est très bien dans la série avec Isabelle Nanty, Munch. C'est des modèles tout à fait respectables, mais on est très peu. Tandis que dans d'autres pays, il y a pléthore de choix. Donc, c'est un vrai problème. Moi, je me souviens quand j'allais au cinéma plus jeune, il n'y avait pas encore Omar et Lucien Jean-Baptiste. C'était très compliqué. Oui. Il y avait Édouard Montout qui se faisait renverser par une voiture dans Taxi. Donc, vous voyez, c'est un peu limité, quoi. Donc, du coup, c'était un peu compliqué de s'identifier. Mais j'aimerais bien m'identifier à Jean-Pierre Bacri, mais beaucoup de différences.
Alors, mercredi prochain sort La Miséricorde de la Jungle, le film de Joël Carrecchesi. Avant d'en parler, on va écouter la bande-annonce.
Okay. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras.
D'accord, monsieur.
Lève-toi.
ne m'ont pas réveillé. On est perdu.
Rentrez dans la jungle.
Moi, il peut y avoir si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non?
Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur.
Le film se passe en 1998 dans la région du Kivu, à la frontière entre le Congo et le Rwanda, alors que la deuxième guerre du Congo fait rage. Le sergent Xavier, héros de guerre rwandais, et le jeune soldat Faustin perdent trace de leur bataillon et se retrouvent isolés et sans ressources dans la jungle la plus vaste du continent.
Totalement, c'est un film remarquable de Joël Karikési, un premier film de ce réalisateur rwandais qui a la trentaine, j'ai pas son âge, j'ai envie de dire qu'il a 34 ans, mais j'ai pas envie de le vieillir.
Je crois qu'il a 34, oui.
C'est son premier film, et voilà, j'ai appris, on était au Rwanda récemment, il y a deux semaines, on m'a dit que c'était le premier film pour faire la sortie du film là-bas. On m'a dit que c'était le premier film par un réalisateur rwandais qui sortait en salle au Rwanda, donc je trouve ça assez fabuleux, et c'est un très très beau film de survie, de guerre, et d'entraide qui sort mercredi prochain.
Joël Karikési, le réalisateur est rescapé du génocide. En tant que survivant, en tant que miraculé, il a voulu raconter son histoire et celles qui lui ont été racontées par la suite. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de faire ce film ?
Moi, ce qui me donnait simplement envie de faire ce film, c'est ce scénario. J'ai reçu le scénario via mon agent, et il y a très peu de scénarios aussi riches. Il y a vraiment une volonté de raconter sans jugement, je trouve, parce que c'est la force de Joël, c'est que avec toutes les épreuves qu'il a pu connaître, qu'il aurait pu avoir faire des films revanchards, et pas du tout. Il apporte son regard sur ces conflits sans queue ni tête, et je trouvais ça beau, et j'avais envie de rendre justice à ça, et l'idée de partager l'affiche avec Mark Zinga m'excitait aussi.
C'est un film de guerre intimiste, qui se joue entre deux personnages perdus dans une jungle à la fois protectrice et dangereuse. La guerre est une situation extrême qui vous confronte au danger, à la mort. C'est une situation où l'homme se révèle tel qu'il est.
Peur de ce que vous allez dire. À chaque fois, je vous regarde dans les yeux, j'ai l'impression que vous allez me sortir de la dernière des conneries.
Ah non, pas du tout.
Alors, je suis très sérieux, là. Non, je parle de la guerre, de la mort, du Rwanda.
On ne sait jamais.
Je vais bien vous faire le tirer moi sur le doigt, mais non, ça s'y prête pas, là.
Non. Qu'est-ce que vous avez appris, Stéphane, en jouant à la guerre?
Qu'est-ce que j'ai appris en jouant à la guerre? J'ai appris que j'avais plus de ressources physiques que je ne le pensais. Parce qu'on était à 3000 mètres d'altitude en Ouganda pendant un mois et demi, dans la jungle, dans des lodges, pas très équipés, j'avais pas de douche par moment, etc. Et j'ai appris que je pouvais puiser dans mes ressources, alors que je pensais vraiment être un faiblard. Et je pense que je peux m'en sortir à peu près dans la jungle. Et j'ai appris aussi un grand sens du respect, parce qu'il y avait des techniciens incroyables sur le plateau et qui surmontaient tout, et donc voilà, c'est un sens du respect, je pense.
Le film a été tourné où ?
En Ouganda, dans plusieurs jungles, dans la jungle de Jinja, si je me souviens bien. On a tourné en Ouganda, équipe réduite, on a tourné avec des vrais gorilles que vous pouvez voir dans le film, des silverbacks, les plus gros gorilles du monde.
Et on n'a pas l'air tout à fait rassuré, d'ailleurs.
Non, c'est vrai, c'est le seul moment traître.
Il y a une maman gorille qui passe derrière vous avec son petit dans le dos, et je lis dans votre regard.
Je me chie dessus, on peut le dire clairement. Non, mais c'est qu'en plus, ils m'ont un peu pris, on va dire qu'ils m'ont un peu escroqué, parce qu'ils m'ont prévu la veille pour le lendemain, on m'avait dit qu'il y aurait deux gorilles. Et je me suis retrouvé dans une fosse à 8 gorilles. Donc fallait tenir. Et c'est un gorille, ça daube. Faut le savoir, c'est qu'un gorille, ça sent très très fort. Donc 8 gorilles, et c'est massif. C'est massif et c'est pas très friendly. Donc du coup, on prend sur soi, et je crois que ça se voit à l'écran que j'étais pas très à l'aise. Oui.
Vous êtes vous-même, sauf erreur de ma part, d'origine congolaise.
Oui.
Quelle trace a laissé cette guerre dans votre histoire familiale ? Est-ce que vous avez été touché ? Est-ce que vous avez des proches qui l'ont été ?
Alors, moi, mes parents sont arrivés dans la fin des années 80 en France, donc déjà, ils n'y étaient plus. Et c'était une guerre qui se passait plus au Zaïre. Nous, on est du Congo-Brazza, vous voyez. Donc, du coup, j'ai de la famille zaïroise. Et effectivement, ça a laissé de grandes séquelles, parce que voilà, il y avait ces Rwandais qui traquaient des génocidaires, et qu'il y a beaucoup de morts pour rien. C'est mon père qui m'a toujours parlé, de toute cette histoire, parce qu'il a toujours voulu que l'on sache d'où on venait. Et d'ailleurs, je sais qu'il m'écoute là, donc papa, je t'en remercie, parce que ça a été, il m'a vraiment dit de le remercier à la radio. Donc papa, c'est fait. Maintenant,
Stéphane, vous avez commencé par le stand-up.
Oui.
Vous voilà maintenant avec des rôles, des vrais rôles de cinéma, des vrais lourds, complexes. Ça veut dire que la période stand-up est terminée ou que vous y reviendrez peut-être un jour ?
Non, je ne pense pas que ce soit terminé. J'aimerais bien remonter sur scène à un certain moment. J'ai la chance de faire ce que j'aime, donc du coup je suis un peu pris par tout ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vive, il faut que j'ai des expériences pour être un peu plus fort sur scène. Donc du coup j'ai continué de vivre et de m'alimenter de vous, de la pop culture d'Antoine et de tous ces réalisateurs, quoi.
Très bien, vous pouvez tourner avec des gorilles, est-ce que vous pouvez faire ça?
Alors je vais tenter, c'est un talent que vous avez,
je vais tenter.
Je peux réessayer, j'ai le droit de deuxième essai.
Deuxième essai, oui.
C'est catastrophique. Le deuxième essai.
Ne touchez plus à rien. Merci Stéphane. De toute façon, c'était juste pour lancer les pop news.
J'avais prévu de vous parler du nouveau single de Madonna, mais je l'ai écouté. Du coup, je vais plutôt vous parler du nouveau titre de Fat White Family. Il s'appelle When I Leave. Et When I Leave figurera sur Serves Up, nouvel album de Fat White Family, le troisième. Il sortira vendredi et les Anglais seront en concert le 31 mai à la Laiterie de Strasbourg et le 13 juin à l'Élysée Montmartre à Paris.
Et l'annonce a été faite ce matin, la sélection des films en compétition à Cannes pour la 72e édition. Citons donc parmi les compétiteurs Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, Marco Bellocchio, les frères Dardenne. Ah bon ? Arnaud Desplechin, Xavier Dolan, Ken Loach, Terrence Malick, Céline Sciamma et Justine Triet. Pardon pour le chauvinisme généralement de Bonalo à maison, mais là, on mise surtout sur Douleur et Gloire, la merveille signée Pedro Almodovar, bientôt dans Pop Pop Pop. La compète sur la croisette, ce sera entre le 14 et le 25 mai.
J-6 avant la sortie d'Avengers Endgame et les multiples comédiens de la franchise font quelques apparitions télé et notamment Paul Rudd, soit Ant-Man, le super-héros qui rétrécit. Et sans spoiler, l'animateur anglais Graham Norton a confronté le comédien à une théorie de fan qui voudrait que son personnage soit la clé pour vaincre Thanos, une théorie que Paul Rudd va vous expliquer.
The theory is called the Thanos and go into Thanos. In a certain orifice.
Yes.
And then grow giant size.
Donc, est-ce que j'ai besoin d'expliquer Thanos, oui. Il rétrécit, il grandit, enfin voilà. Thanos ou pas, Avengers Endgame, le bonnet final, ce sera mercredi prochain au ciné, vous aurez du mal à y échapper.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
C'est moi.
Ça, c'est Thanos qui vient de. Non.
Non. C'est une gorille.
Oh là là, c'était pas... Non,
enfin...
okay, je l'avais pas.
Bon, avant de recevoir l'auteur de bande dessinée Timothée Le Boucher, que diriez-vous d'un petit The Weeknd, Stéphane Bach?
J'adorais qu'on écoute The Weeknd,
ah
lequel
bah ça tombe bien, lequel, c'est une bonne question, The Hills.
Oh, j'adore, c'est parti.
Oh, bah là.
Always try to send me off to rehab.
The Hills, The Weeknd, c'est extrait de l'album Beauty Behind the Madness. La beauté derrière la folie.
C'est nous, ça.
Mais oui, c'est tout nous. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
C'est catastrophique, je ne réessaye pas. Allez, allez.
Oh, oh là, là, vraiment
si
pas.
Si je peux me permettre, c'est plus haut et plus
c'est
tendu.
Plus, plus haut, plus tendu. Plus tendu.
Une dernière.
Non. Bon, alors, nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Bach, qui décidément n'y arrive pas, à Popé, hein, je veux dire, et vient de nous rejoindre en studio Timothée Leboucher, dont la nouvelle bande dessinée Le Patient vient de paraître aux éditions Glénat. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Votre travail nous avait déjà largement tapé dans l'œil, regardez, j'ai encore la marque là, avec votre ouvrage précédent, Ces jours qui disparaissent, présenté à Angoulême et récompensé du prix des libraires, un ouvrage de science-fiction dystopie remarqué et remarquable. Voilà, ouais, pour les compliments.
Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez dur à identifier comme genre, du coup, parce que moi, quand je crée des histoires, je me cale pas dans un genre en particulier. Ouais. Du coup, c'est plutôt les gens, quand ils commencent à parler de l'histoire, qui enrobent, du coup, de la case du genre, mes histoires. Ouais.
Vous avez fait de multiples séances de dédicaces avec Ces jours qui disparaissent. Quels sont les mots que vous avez le plus entendus, Timothée Leboucher, à propos de votre travail à ces différentes occasions, en dehors, bien sûr, de « j'en ai un peu plus, je vous le laisse quand même ».
Ah oui, je crois que c'est la question à laquelle j'ai répondu tout le temps, c'était si c'était mon premier album, quel âge j'avais et s'il y avait des choses personnelles à l'intérieur.
Parce que vous êtes très jeune, il faut le préciser quand même.
Pas tellement, j'ai 30 ans en fait.
Vous êtes très jeune, donc c'est ce que je disais.
J'en ai un peu plus, je vous le laisse quand même alors.
On peut échanger.
Ok, d'accord. Et aujourd'hui, vous revenez avec un thriller psychologique et hospitalier. Est-ce que là, c'est une appellation qui vous sied?
Oui, ça va. Ouais. Après, moi, effectivement, c'est une manière assez simple de résumer l'album, donc c'est assez pratique.
Vous voulez dire assez simple, ça veut dire que...
efficace.
Simple.
Le patient, le livre s'ouvre donc sur une jeune fille errant dans la rue couverte de sang, un couteau à la main. En se rendant chez elle, les policiers qui l'arrêtent découvrent avec effroi une scène de massacre. Toute sa famille a été assassinée. 6 ans plus tard, Pierre Grimaud, l'unique survivant du massacre de la rue des Corneilles, se réveille d'un profond coma. Comment cette inquiétante histoire est-elle née?
Je crois qu'à la base, j'avais envie de... Je crois que c'était à cause de Brigitte Macron. Parce qu'en fait, tout le monde parlait de leur... Oui, alors, c'est très étrange.
Il va falloir bien expliquer,
alors, racontez-moi ça. Allongez-vous.
Parler de leur relation, du coup, de quelqu'un de plus jeune avec quelqu'un de plus âgé. Et en fait, les gens dénigraient ce type de relation. Mm-hmm. Particulièrement quand, du coup, la personne qui est la plus âgée est une femme. Donc, en fait, au début, j'avais envie de traiter de cette histoire entre un jeune et une femme plus âgée. Et au départ, c'était vraiment complètement différent. Mm-hmm. C'était une femme qui rencontre un jeune en vacances et ils ont une relation. Et tout ça, et à la rentrée, il se retrouve parce qu'elle, elle est professeure et lui, c'était un étudiant. Et en fait, il arrêtait de lui parler, il voulait plus du tout lui parler. Et finalement, j'arrivais pas à trouver d'arc narratif intéressant. Et une fois, quand je me baladais dans un hôpital, c'était des longs couloirs.
Je me baladais dans un hôpital.
Oui, c'est très étrange. C'est bon, j'accompagnais des amis, d'accord. Et c'était un dimanche.
À la morgue.
Non, mais peut-être. Ouais. Du coup, j'ai dû prendre des photos après pour l'album, donc je me suis renseigné, donc je suis allé jusque-là. Mais oui, effectivement, en fait, j'aimais bien l'ambiance. Et j'ai commencé à mélanger ces deux histoires plus ou moins avec cette histoire de quelqu'un qui se réveille du coma 6 ans plus tard, et ça a créé Le Patient, du coup.
Stéphane Bach, vous riez, mais on m'a dit que vous aimiez bien avoir des relations avec des femmes beaucoup plus âgées.
Je mentais pas tout à l'heure quand je vous disais que je vous regarde droit dans les yeux. J'ai l'impression que vous allez sortir la plus grosse des conneries.
Là voilà, c'est fait.
Elle est là, elle est faite.
Timothée, on vous sait très fan d'Hitchcock. Hein, c'est son cinéma qui vous a servi pour la construction du patient. Est-ce que vous pensez cinéma, par exemple, quand vous écrivez?
Oui, en fait, je pense que... D'ailleurs, j'ai un peu des défauts quand je parle aux gens. En fait, je parle de caméra, par exemple, alors qu'il n'y a pas de caméra dans la bande dessinée. Je parle de travelling, alors qu'en réalité, il n'y a pas de travelling dans la bande dessinée non plus. Mais c'est vrai que en termes de narration, de construction, je m'inspire pas mal du cinéma. Et c'est vrai que Hitchcock, en tout cas pour Le Patient, c'est une des références. Et aussi tous les gens qui ont réutilisé Hitchcock, comme Brian De Palma. Je sais que, par exemple, mon héroïne, elle vient de Angie Dickinson, qui est dans Pulsion. Où en fait j'ai commencé à la dessiner. Bon, après ça a pas mal changé. Et en fait, plus on design un personnage, plus il change de ce qu'on avait commencé à créer. Mais oui, c'est vrai que l'influence du cinéma est très très présente dans ma manière de raconter. Ouais.
Oui, Stéphane.
Et c'est quelque chose qui vous intéresse pour la suite, par exemple de passer derrière la caméra?
En fait, on m'a proposé, mais je me sens pas capable pour l'instant, en tout cas. Après, je sais que là, du coup, il y a mon projet qui est, enfin, le Ces jours qui disparaissent, donc mon album précédent qui est en cours d'adaptation.
Mmh. Et là, Jonathan Barré, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et là, il y a des propositions d'adaptation aussi pour Le Patient et tout ça. Donc, c'est intéressant, mais je me sens pas capable en tout cas. Je pense que c'est la direction d'acteur.
Stéphane Bach, la règle veut dans cette émission que si vous voulez poser une question à mon invité, vous leviez le doigt d'abord.
Il l'a fait. On peut le voir sur franceinter.fr. Déjà présent dans Ces jours qui disparaissent, les interrogations sur l'identité, l'étrangeté, le trauma, la figure du ou de la psy et de son emprise, ce sont vraiment des questions qui vous travaillent, Timothée, ou juste un très bon matériau de fiction ?
Oui, en fait, je pense que le lien entre les deux albums, c'est que pour Ces jours qui disparaissent, j'ai dû m'intéresser à la psychologie. Mmh. Et comme quand j'ai commencé à créer l'histoire, au départ, le personnage devait être un docteur. Et finalement, pour que vraiment les deux personnages aient des conversations, rentrent dans l'intime, je trouvais ça plus intéressant d'utiliser une psychologue et ça me permettait de réutiliser tout le matériau, tout le travail en amont que j'avais fait pour Ces jours qui disparaissent. Donc, je crois que c'est des liens après qui sont pas forcément récurrents dans mes prochains albums, mais qui m'ont intéressé et qui font des parallèles entre les deux histoires. Oui.
Avez-vous remarqué, Timothée Leboucher, et oui, je pense que vous l'avez remarqué, que vous ressemblez physiquement à certains de vos personnages ?
Alors ça dépend. Des fois, les gens le disent, mais je pense que ça vient de... Quand j'apprenais à dessiner, en fait, des fois, je me regardais dans le miroir et je pense que du coup, forcément, on prend un peu notre anatomie comme exemple. Je pense que ça vient de là, ouais.
Vous voulez dire que Walt Disney ressemblait à une souris ?
Oui, ou alors il a changé un peu, peut-être un éléphant maintenant.
Non, mais du coup, ça donne des personnages à l'apparence très angélique qui contrastent avec la noirceur des univers dans lesquels vous les plongez, quand même.
Ouais, alors pour Ces jours qui disparaissent, c'était moins noir, mais c'est vrai que pour Le Patient, oui, il y a cet effet de contraste.
C'est un peu inquiétant quand même.
Oui, oui. Mais pour moi, c'est la BD la plus joyeuse que j'ai faite, donc c'est dire.
Ces gens qui disparaissent. Du reste.
Oui, oui.
En tous les cas, c'est une BD très fascinante, très hypnotique et très haletante. Hein, on peut dire ça.
Ah même. Oui, j'ai pas pu le lâcher. J'ai fallu le lire en une fois. C'était pas possible autrement.
Pourquoi l'auriez-vous lâché ?
Mais non, mais on peut lire en plusieurs fois parfois quand c'est des gros ouvrages. Je suis lente, vous le savez.
Bon, ça s'appelle Le Patient. Timothée Leboucher, c'est édité chez Glénat. Timothée Leboucher, Stéphane Bach, il est l'heure pour moi de descendre à la cave, chercher le dernier vinyle de l'émission et j'y vais de ce pas. C'est... Voilà, voilà, oh, qu'est-ce qui se passe là-dedans, là ?
Oui, oui,
il y a tout France Inter.
Oui, 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 oui.
Laurence Bloch qui fait du pole dance dans ma cave, mais c'est quoi ce délire ? Mais attendez, Laurence, d'accord, les chiffres sont bons, mais je suis venu chercher un Laurence.
6 millions,
ah oui, c'est un gros chiffre, effectivement, oui.
RTL, en France, RTL.
Oui, je sais, RTL, on est devant RTL. Oui, oui.
C'est historique, en fait, c'est historique.
C'est historique, on l'a compris, Laurence.
Les sondages.
Oui, les sondages existent, d'accord. Et moi, je suis pas venu écouter de la socadence et faire la chenille, je suis venu chercher un vinyle, d'accord. Quoi? Oui, c'est ça, c'est moi, le rabat-joie. Bon, j'avais prévu un autre vinyle. Et je crois que vous les bourrez, ce sera plus de circonstances. Allez. Ça va. Eh oui, oui, merci Laurence.
Ils vous font des chicanes.
rouler bourré. Enfin, c'est évidemment le titre de la chanson et non pas un conseil hein, que j'adresse à tous nos amis volants. C'est au bonheur des dames dans Pop 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 sur France Inter. C'est extrait de l'album Jour de fête qui résume bien l'ambiance qui règne ici aujourd'hui
oui
à Radio France. Calmez-vous, s'il vous plaît, okay. Charline Timothée, Le Boucher, Stéphane Bach. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'intention de faire de ma cave un musée. Qu'aimeriez-vous y laisser ici tous les deux, Stéphane?
J'y laisserai un livre, je pense, Petit Piment d'Alain Mabankou, qui est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que j'y laisserai un livre, mais j'aimerais bien revoir Laurence Bloch, ceci dit, votre patronne, donc j'aimerais bien faire un tour à la cave quand cela se propose. Ah,
vous n'êtes pas obligé de descendre à la cave pour voir Laurence Bloch, hein, mais je vais vous emmener.
Mais je vais bien, parce qu'il a l'air d'ici passer des choses dans la cave. Donc,
Timothée
Moi, dans la régie, on m'a conseillé de répondre le stress et les cheveux blancs, alors je sais pas.
Laissez-moi tout ça, je les ai déjà, moi. C'est bon, j'en fais mon affaire. Merci Stéphane Bach, La Miséricorde de la Jungle, le film de Joël Carchesi, ça sort mercredi avec une avant-première qui aura lieu mardi prochain
au Luxor,
à Paris. Merci Timothée Le Boucher, Le Patient, votre nouvelle BD est éditée chez Glénat. Tout ça est évidemment très recommandé par Pop Pop Pop. Et j'en profite pour vous annoncer une émission spéciale sur France Inter, une émission spéciale Notre-Dame, que dis-je ? Un voyage littéraire dans l'imaginaire des cathédrales, voyage organisé par Guillaume Gallienne. Ce sera en direct et en public du studio 104 de la Maison de la Radio ce samedi à 18h. Voilà, merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Michel Bessiquion, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, Les Innocents. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuv ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Laurence Bloch à la fin de ses tutos coloration sur YouTube,
abonnez-vous à notre podcast et suivez mes tutos coloration à Laurence Bloch.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et tout.